une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de stock options, de cerveau et de Carlos Tavares.
Exactement. Vous les entendez partout en ce moment. Les politiques de gauche, les syndicats et surtout les travailleurs et travailleuses. Alors que leur pouvoir d'achat est attaqué depuis 2 ans par une violente inflation, tous ne demandent qu'une chose, augmenter les salaires.
Pas content !
Mais cela semble tellement compliqué pour les entreprises, et même les plus grosses. Alors bien sûr, tout le monde le comprend. La majorité des entreprises, et notamment les plus petites, souffrent, elles aussi, de la forte inflation, et augmenter le coût du travail pourrait les mettre dans la pagaille. Ce que nous comprenons moins, en revanche, c'est l'envolée de la rémunération des grands patrons du CAC 40. Et pour cause. Selon le cabinet Proxinvest, celle-ci a augmenté de 52% entre 2019 et 2021. Ainsi, en moyenne, ces patrons ont touché en 2021 7,9 millions d'euros. Un montant 100 fois plus élevé que le salaire moyen de ces entreprises et plus de 350 fois plus élevé que le SMIC. Et ça, ce n'est qu'une moyenne, car certains gagnent bien plus. En tête de gondole, on retrouve Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis. Lui, en un an, son travail lui a rapporté 66,7 millions d'euros, soit plus de 3000 années de SMIC.
Mais c'est n'importe quoi, dis donc !
Précisons quelque chose. Dans cet épisode, lorsque nous parlerons de salaire, nous prendrons en compte l'ensemble des revenus du travail. C'est-à-dire que nous parlerons effectivement du salaire fixe, mais aussi des rémunérations variables du travail. Les bonus, les primes, les stock options, les avantages en nature, etc. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un travail puisse rapporter autant ? Les inégalités de salaire et de revenus ont-elles augmenté en France ? Et surtout, serait-il essentiel de les réduire ? Doit-on imposer un salaire maximum au patron ?
Bon Robin, commençons peut-être par faire un tour des inégalités de rémunération du travail. Est-ce qu'elles ont augmenté depuis une trentaine d'années en France ?
Alors, tout dépend de ce que l'on regarde et de l'indicateur retenu. Par exemple, pour regarder les inégalités de salaire, on peut regarder le ratio entre le premier décile, c'est-à-dire les 10% des salaires les plus bas, et le neuvième décile, les 10% des salaires les plus hauts. On peut également regarder la part des revenus du travail qui vont aux 10% les plus riches. Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais selon ces indicateurs, depuis 50 ans, les inégalités entre les salariés à temps plein sont restées stables en France. Pas d'augmentation, donc. En revanche, il se passe quelque chose tout en haut. J'en ai parlé avec Thomas Breda, économiste à la Paris School of Economics et spécialiste des inégalités sur le marché du travail.
Il y a un micro-phénomène, en revanche, qui se produit, qui est tout en haut. C'est-à-dire que si on regarde les très hautes rémunérations, elles ont augmenté. Donc, si on va vraiment regarder tout en haut, mettons les 100 personnes les mieux payées ou les 1000 personnes les mieux payées dans le pays, elles ont gagné de plus en plus au cours du temps. Et là, ça inclut les grands patrons. Donc, si on parle des grands patrons, oui, pour eux, leur rémunération a augmenté. Mais c'est pas tant depuis 20 ans, c'est plutôt depuis 50 ans, en fait. Le phénomène, il a eu lieu il y a plus que 20 ans. Voilà, à l'après-guerre.
Et pour cause, au moment de l'après-guerre, l'écart de rémunération du travail entre les très grands patrons et leurs salariés les moins bien payés était d'environ 1 à 20. Aujourd'hui, selon les estimations, ce ratio se situe entre 250 et 400.
Putain, ça a été à une vitesse. On a perdu le contrôle et on s'est laissé dépasser.
À noter d'ailleurs que cette explosion des plus hautes rémunérations est visible dans toutes les économies développées.
Cette explosion des rémunérations des grands patrons est surtout liée aux rémunérations variables, à la mise en place des stock options, de tout un tas de dispositifs de rémunération variable, de bonus qui peuvent être extrêmement élevés, qui vont être beaucoup plus que la moitié de la rémunération. Ça, ça s'est mis en place petit à petit à partir des années 80 dans plein de pays dans le monde. Et donc, ça concerne la France au même titre que beaucoup et la plupart des autres pays développés.
Est-ce qu'on sait pourquoi les plus hauts salaires ont explosé ? Les dirigeants sont-ils soudain devenus plus productifs ? Ou tout cela n'est qu'une question de rapport de force ?
Bon, d'abord, les différents experts interrogés sur ce sujet se mettent d'accord sur un point. La productivité n'est pas un argument. En gros, on ne peut pas expliquer qu'un patron soit 400 fois plus productif qu'un smicard. Impossible. En revanche, les économistes racontent 3 histoires pour expliquer cette explosion des très hauts salaires. Les premiers disent « les entreprises sont beaucoup plus grosses qu'avant, la responsabilité du patron est donc beaucoup plus grande et c'est donc normal qu'il soit plus payé ».
Il y en a qui disent, avant, elles avaient quelques milliers de salariés, aujourd'hui, elles ont des centaines de milliers, voire des millions de salariés. Et donc, celui qui est tout en haut d'une énorme structure, ces décisions, elles vont avoir un impact sur la valeur de l'entreprise colossale, quoi. Vous voyez bien qu'une petite décision du grand patron, elle peut jouer sur la valeur de l'entreprise, même infiniment, même une variation infime du cours des actions, bah, ça fait une variation énorme de la valeur pour cette très grosse entreprise. Donc, il y a un courant qui dit, bah, en fait, tout ça, c'est tout à fait normal. Les entreprises étant plus grosses aujourd'hui, on a besoin d'être sûr d'avoir la personne qui va vraiment prendre les toutes meilleures décisions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on paye les grands patrons beaucoup plus.
Cette première théorie pose bien évidemment question. Tout d'abord parce que la bonne ou la mauvaise santé d'une entreprise ne s'explique pas seulement par les choix d'un patron. Celle-ci peut aussi s'expliquer par la productivité et la santé des travailleurs, et surtout par la conjoncture économique et politique. Tout n'est pas dû au formidable ou au mauvais patron. Ensuite, parce que celle-ci explique qu'il faudrait payer cher les patrons pour qu'ils ne partent pas voir ailleurs.
Dans cette théorie de « il y a un marché compétitif pour les patrons », est-ce qu'il existe ? Il y a des études sur la mobilité entre pays. Est-ce que quand on se met à augmenter les taux de taxation, par exemple, la fiscalité pour les très hauts revenus, est-ce que les gens sont vents ? Et là, ce qu'on voit, c'est des résultats qui sont pas du tout les mêmes pour les nationaux et les étrangers. Donc, si en France, vous augmentez fortement la fiscalité sur les très hauts revenus, vous allez dissuader les étrangers à potentiellement très hauts revenus de s'installer. Là, beaucoup d'études montrent que cet effet existe. En revanche, les effets sur les nationaux sont faibles.
Un phénomène donc à relativiser. À contre-courant de cette première théorie, un deuxième courant explique que l'explosion des salaires relève davantage de deux phénomènes, le copinage et les rapports de force.
Il y a un courant qui dit que c'est le copinage, en fait, et les réseaux d'influence dans les conseils d'administration, parce que la plupart des grands patrons sont siègent dans les conseils d'administration des entreprises voisines, et donc ils se connaissent tous très bien. Qui décide de la rémunération d'un grand patron, c'est d'autres grands patrons qui vont à leur tour être sujettes à la décision du premier grand patron pour lequel on décide. Donc voilà, tous ces réseaux d'influence qui se connaissent bien ont une certaine marge de manœuvre pour prendre des décisions qu'il faut ensuite voter aux assemblées d'actionnaires, où les actionnaires sont pas toujours d'accord, mais ils arrivent quand même à faire à peu près passer les décisions.
Troisième et dernière histoire qui donne une explication à l'envolée des très hauts salaires, il faut que les grands patrons soient bien payés pour représenter au mieux les intérêts des actionnaires.
C'est l'idée qu'on a développée des incitations très fortes pour les grands patrons. Et où on s'est mis dans les années 80, 90 à dire, bon, en fait, quelle est la meilleure façon de faire en sorte que le patron représente bien les intérêts des actionnaires? Donc les actionnaires, ils veulent maximiser la valeur de l'entreprise, les dividendes, etc., les profits. Et le patron, il est quelque part entre les actionnaires et les salariés. Et donc, comment faire qu'il défende les intérêts des actionnaires? Eh ben, une façon de faire, c'est de lui mettre des rémunérations variables, très incitatives, c'est-à-dire de faire en sorte que sa rémunération, elle est alignée sur le cours des actions. Et là, on met le paquet, c'est là qu'on développe les stock options et les bonus, qui dépendent de l'évolution du cours des actions des entreprises, ce qui va dans le sens des actionnaires et moins peut-être de ceux des salariés. Et ça contribue à l'explosion des rémunérations du patron.
Bon d'accord, en gros l'explication se trouve entre ces trois histoires. Est-ce qu'on devrait alors limiter les écarts de salaire ?
Alors ça, c'est une question très politique. D'un côté, les partisans du oui estiment que ces inégalités créent un problème d'acceptation sociale. Et on le comprend. D'ailleurs, au début du XXe siècle, Henry Ford estimait qu'au-delà d'un rapport de 1 à 40 entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires, il n'y avait plus de société. On estime également que cela permettrait un meilleur partage des richesses au sein des grosses entreprises. De l'autre, les partisans du non disent que ce nivellement vers le bas enverrait un mauvais signal aux meilleurs des travailleurs. De plus, si une telle mesure est seulement instaurée en France, cela entraînera dans les groupes internationaux de grandes inégalités entre les dirigeants français et étrangers. Les meilleurs cerveaux français partiraient-ils donc de notre cher pays ? À voir.
Et pourrait-on limiter les écarts de salaire au sein des entreprises ? Et si oui, comment le faire ?
Alors, est-ce qu'on pourrait ? Dans l'idée, oui, on peut tout faire à condition qu'il y ait consensus. D'ailleurs, il faut savoir que depuis 2012, les salaires des dirigeants des entreprises publiques sont plafonnés.
Ça fait plaisir.
C'est François Hollande qui avait mis ça en place pour limiter les écarts de salaire de 1 à 20. Pour les patrons publics, le salaire maximum est de 450 000 euros bruts par an. Attention, ici, c'est seulement le salaire fixe qui a été plafonné, pas les bonus.
Ça fait pas plaisir.
Bon, vous l'aurez compris, pour le moment, ce ratio obligatoire, et même seulement sur les salaires fixes, n'existe pas dans le secteur privé. À noter ici que si un tel ratio était imposé, seules les très très hautes rémunérations du travail seraient touchées. Car en France, l'écart entre les 10% des salariés qui gagnent le moins et les 10% qui gagnent le plus se situe aux alentours de 3. Et il s'élève aux alentours de 20 si l'on compare les salariés les moins bien payés et les 0,1 les mieux payés.
D'accord, donc pour des raisons de justice sociale, on pourrait le faire sans toucher trop de monde. Mais comment le faire ?
Oui, l'objectif serait clairement de réduire les rémunérations des dirigeants du CAC 40. Alors, il y a eu deux propositions qui ont été faites en 2022 lors des élections présidentielles. Tout d'abord, du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon souhaitait tout simplement imposer un salaire maximum pour arriver à un écart de 1 à 20. Du côté d'Anne Hidalgo, l'objectif était le même, de réduire l'écart de 1 à 20, mais avec une stratégie différente. Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous le savez peut-être, l'impôt sur les sociétés est prélevé sur les bénéfices des entreprises une fois déduits les charges et notamment les rémunérations. L'idée du PS, inclure tous les salaires dépassant ce seuil de 1 à 20 dans la base du calcul de l'impôt. Ainsi, plus l'entreprise comptera de salaires dépassant ce seuil et plus ils seront importants, plus elle paiera d'impôts. Pour les deux parties, l'objectif final est le même, baisser les gros salaires d'un côté et augmenter les petits de l'autre.
Mais ce serait vraiment efficace ?
Alors d'abord, il faut se demander, est-ce que ça pourrait passer ? Selon plusieurs juristes, ce serait difficile pour la proposition de la LFI. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est possible que le Conseil constitutionnel s'oppose à cette mesure. Car un salaire maximum pourrait contrevenir au droit de propriété, un droit qui donne aux entreprises le soin de disposer de leurs fonds comme elles le souhaitent. Sur ce point, la proposition version PS serait alors plus envisageable. Bon alors, est-ce que ça serait efficace économiquement parlant ? Si l'on parle seulement de justice et d'apaisement social, oui, ce serait très efficace. Par contre, comme nous l'avons dit juste avant, cela toucherait un nombre très réduit d'entreprises. Et puis cela permettrait-il d'augmenter les salaires les plus bas dans le CAC 40 ? Car c'est bien là l'un des objectifs du salaire maximum. Peut-être, mais pas forcément. Les entreprises touchées pourraient décider, grâce à ces économies réalisées sur les très hauts salaires, d'embaucher quelques employés supplémentaires, ce qui serait tout de même positif. Elles pourraient également décider d'augmenter légèrement les investissements ou les dividendes. Alors, on pourrait bien entendu décider d'augmenter le salaire minimum. C'est d'ailleurs ce que souhaite encore faire la gauche. Sauf que cette augmentation du salaire serait généralisée et toucherait toutes les entreprises, y compris les plus petites.
Au-delà des salaires, est-ce que c'est pas plus intéressant de s'intéresser plus largement aux inégalités de revenus, qu'ils viennent du travail ou du capital ?
Alors oui, effectivement, cela permet de toucher aussi aux revenus du capital et pas seulement au travail. Pour précision, ouvrons une petite parenthèse. Tout comme les salaires, les inégalités de revenus sont relativement stables en France. Et ce, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis où les inégalités ont explosé depuis 40 ans. Enfin, les inégalités de revenus sont stables en France si l'on regarde des indicateurs relatifs. Ce n'est pas la même si l'on regarde les indicateurs de revenus en valeur. Petit exemple fictif pour que vous compreniez bien la différence. En 2000, imaginons que les plus riches avaient un niveau de vie de 10 000 euros et que les plus pauvres de 1 000 euros. En 2020, ce niveau de vie des deux catégories a augmenté de 10%. Les premiers gagnent donc 11 000 euros, 1 000 euros de plus, et les deuxièmes 1 100 euros, 100 euros de plus. Relativement, les inégalités n'ont pas augmenté, mais en euros, les inégalités se sont creusées de 900 euros. Ainsi, selon l'Observatoire des inégalités, entre 1996 et 2019, les inégalités de revenus se sont creusées d'environ 11 500 euros, tout de même.
À la boulette.
Si l'on rentre encore davantage dans le détail, on sait que les revenus des 1 et des 0,1% les plus riches ont explosé ces 10 dernières années. Fermeture de parenthèse.
Bon alors, est-ce qu'on pourrait mettre en place un revenu maximum ?
Alors, même réponse que pour les salaires, oui, bien sûr. On pourrait par exemple dire, comme le souhaitait la France Insoumise, au-delà de 400 000 euros après impôt, on taxe les revenus à 90%. Pour rappel, ce taux de 90% sur les très hauts revenus était celui imposé aux États-Unis jusqu'aux années 1960. Si ce seuil était retenu en France, seuls les 0,1% des plus riches seraient soumis à cette taxe. Et oui, c'est tout.
Et pourquoi choisir ce seuil de 400 000 euros ?
Ça représente 20 fois le salaire médian. Mais on pourrait tout à fait aller plus loin, notamment pour que ça rapporte plus aux finances publiques et que l'effet redistributif soit plus important. Selon la LFI, sa mesure pourrait rapporter quelques centaines de millions. Je vous le conçois, c'est pas très précis. Beaucoup d'économistes ont travaillé sur des seuils de richesse. C'est notamment le cas de Pierre Concialdi, chercheur associé à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Lui se base sur le budget de référence. Cet indicateur a été créé il y a une dizaine d'années par l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion pour répondre à cette question. De quels revenus avons-nous besoin pour vivre décemment ? Le principe, des groupes de citoyens avaient été chargés d'établir le panier de biens minimum dont ont besoin les ménages pour vivre sans privation et participer à la vie sociale. Selon les estimations de l'économiste, le revenu minimum nécessaire pour mener une vie décente s'élève au premier semestre 2022 à 1634 euros pour une personne seule, soit bien plus que le seuil de pauvreté ou même le SMIC. Aujourd'hui, on estime qu'environ un tiers de la population française se situe en dessous de ce seuil minimum. L'objectif pour lui serait donc d'augmenter les revenus les plus bas pour qu'ils atteignent, voire dépassent ce seuil. Et pour cela, il faut partager les richesses, donc mettre en place un revenu maximum. Il explique dans ses travaux qu'on pourrait par exemple mettre un seuil de richesse équivalent à 4 fois ce minimum, soit environ 78 000 euros par an pour une personne seule après impôt direct. Et au-dessus, là, pas de chichi, on taxe à 100%.
Allez, on se lance. On y va, on s'élance, on tente sa chance.
Et le saviez-vous ? Si la distribution des revenus était contenue dans cette échelle de 1 à 4, seulement 2 à 4% de la population serait concernée par une baisse de leurs revenus.
Bon d'accord, ça permettrait donc de réduire les inégalités vers le haut et de renflouer les caisses de l'État. Mais c'est vraiment nécessaire ça ?
Eh bien cet argent pourrait permettre de faire plein de choses. On pourrait par exemple améliorer l'état des services publics, commencer à mettre en place un revenu universel ou apporter des compléments de revenus au plus bas salaire. Pour Pierre Concialdi, au-delà des politiques de transfert, cela permettrait de mettre en place des mesures plus structurantes. Il reprend notamment le dernier livre de l'économiste britannique Anthony Atkinson. Pierre Concialdi.
Dans ce dernier livre, il livre toute une série de mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un état acceptable de l'inégalité ? C'est un peu sa question. Et lui, il envisage des mesures qui, à mon avis, sont tout à fait pertinentes et répondent et structurantes, je dirais. Et je ne vais pas toutes les mentionner, ça serait trop long. Et lui, il dit notamment il faudrait permettre à toutes les personnes qui sont sans emploi d'avoir accès à l'emploi. C'est ce qu'on appelle en France l'État employeur en dernier ressort. Enfin, on va avoir différentes versions, mais je veux dire, ça correspond à une nécessité. Dire que dans les groupes de citoyens qui ont été réunis pour construire les budgets de référence, c'est une des premières réunions où il y a une discussion un peu à bâton rompu, où on demande aux gens qu'est-ce que c'est finalement le minimum, etc. Et très spontanément, les gens évoquent systématiquement l'accès à l'emploi. Il n'y a pas que le revenu qui est nécessaire, il y a aussi l'accès à l'emploi. Parce que l'accès à l'emploi, bon, évidemment, ça procure un revenu, mais ça procure aussi une participation à la vie sociale. Donc, il y a cette première proposition qui est de permettre à tous d'avoir un accès un emploi, à un salaire minimum décent.
Donc ça pourrait servir à développer d'autres formes de redistribution. Mais si l'on parle seulement d'efficacité économique, la réduction des inégalités de revenus, est-ce que ça marche ?
Alors sur cette question, je vais laisser répondre Thomas Breda.
C'est l'arbitrage entre l'efficacité économique et les inégalités, et c'est le cœur de ce que font les économistes, avec un présupposé de départ qui est déjà discutable, mais qui est que l'efficacité économique va produire des inégalités et qu'on va essayer de les limiter, les réduire, notamment par la fiscalité, en nuisant pas trop à l'efficacité. Maintenant, il y a plein d'arguments qui vont d'emblée dire, en fait, des sociétés très inégalitaires, ça va décourager les gens, ça va être moins inclusif, il y a des risques de mouvements sociaux, des problèmes importants pour la cohésion sociale. Donc d'emblée, en fait, même pour l'efficacité économique, c'est à long terme mieux d'avoir des sociétés moins inégalitaires.
Après, c'est certain qu'une forte chute des plus hauts revenus français pourrait avoir, à court ou moyen terme, certains effets négatifs, comme une forte baisse de l'investissement. Et oui, les plus riches français ayant moins d'argent et ne pouvant pas en gagner davantage auront moins d'intérêt à investir dans l'économie.
Si tout d'un coup, vous avez une fiscalité confiscatoire ou un revenu maximal qui fait qu'on redistribue énormément, vous allez avoir, dans l'immédiat, un rebalancement très fort de l'épargne vers la consommation, puisque vous allez donner plus d'argent à des gens qui aimeraient consommer plus en en prenant à des gens qui ont épargné beaucoup. Donc ça fait à court terme un virage vers plus de consommation, ce qui a des effets économiques plus ou moins bons. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça a des effets très complexes. Mais ça peut du coup réduire effectivement l'investissement à court terme, mais peut-être que ça peut aller avec un mouvement citoyen où il y a plus de petits épargnants, des investissements mieux contrôlés, de l'investissement responsable par exemple, si on responsabilise les citoyens sur le fait que investir c'est pas juste maximiser le rendement de son épargne, mais aussi participer à la société.
En dehors des aspects purement économiques, la réduction des inégalités de revenus pourrait-elle avoir d'autres avantages, notamment par rapport aux défis climatiques ?
Alors oui, c'est notamment ce que m'a expliqué Thomas Breda.
Un point essentiel, c'est les questions de lutte contre le réchauffement climatique. Chacun doit faire des efforts. On est dans un contexte où c'est quand même difficile d'imposer des taxes carbone, des choses comme ça à l'ensemble de la population quand on a des grands patrons qui gagnent autant et qui contribuent, eux, de manière extrêmement importante au réchauffement climatique, aux émissions. Dans le contexte actuel de défis climatiques hyper forts, il me semble qu'on a vraiment besoin de regarder ces questions d'inégalité de revenus et de faire en sorte que l'effort soit bien partagé, parce qu'il va y avoir un effort gigantesque à faire. Et on ne pourra pas le mener avec des inégalités qui durent comme ça.
Car comme on vous l'expliquait dans l'épisode sur la carte carbone, oui, les riches polluent beaucoup plus que les pauvres. Et dans le même temps, les taxes carbone touchent davantage les plus pauvres. Il pourrait donc être intéressant de limiter les hauts revenus qui polluent beaucoup et d'augmenter les bas pour qu'ils puissent supporter et accepter l'effort qui leur est demandé.
Dernière question, Robin. Dans cet épisode, on a parlé des inégalités de salaire et de revenus. Mais on sait qu'en France, les plus grosses inégalités viennent davantage du patrimoine et de l'héritage que du revenu, non ?
Oui, tout à fait. En France, les plus riches détiennent environ 60% du patrimoine financier et non financier, quand les 50% les plus pauvres n'en détiennent que 5%. Et de ce côté-là, les inégalités augmentent. On peut alors se dire, seules les inégalités de patrimoine doivent être réduites. Laissons donc les salaires et les revenus tranquilles. Sauf que pour combattre les inégalités de patrimoine, il est aussi important de réduire la racine de cette inégalité, les revenus.
Les inégalités de revenus, les écarts entre les questions très concrètes là, sur les écarts entre ce que gagne un grand patron, ses salariés, je pense qu'elles sont fondamentales. Et encore plus avec le réchauffement climatique. Donc non, on peut pas les écarter, c'est pas un faux débat, ça c'est certain. Et quand bien même ces inégalités ont pas augmenté, elles demeurent importantes. À nouveau, on fait pas partie des tout meilleurs. Et le débat de la fiscalité du patrimoine, la taxation des richesses, il est essentiel aussi et il va avec. Donc les deux vont ensemble. Mais j'irai pas vous dire les revenus on s'en fiche, il faut tout faire sur la fiscalité du patrimoine. Les deux vont ensemble. Et les revenus du travail, c'est très important parce que c'est ce qu'on est capable d'obtenir par ce qu'on fait avec ses mains dans le cadre de l'activité dans laquelle on se réalise en tant qu'être humain par son travail. Donc la manière dont quelqu'un va gagner 400 fois plus que quelqu'un d'autre par la manière dont il se réalise par son travail, c'est une vraie question.
Conclusion, oui, les inégalités de revenus et de salaires sont de vrais sujets et on ne peut pas les ignorer. La question est maintenant, à quel point doit-on les réduire et comment doit-on le faire ?
Merci Robin pour ce bel épisode qui permet d'ouvrir le débat sur les inégalités de salaire et de revenus. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Chargé de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Directrice des productions, Marion Gourdon.